Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. L'Allemagne toujours bouleversée par la fusillade de Munich de la nuit dernière. 10 morts, dont l'auteur des coups de feu, un jeune homme de 18 ans, fasciné par les tueries de masse. La police établit un lien avec le massacre d'Utøya en Norvège il y a 5 ans. La chancelière Angela Merkel a parlé ce midi d'une nuit d'horreur. Nous l'entendrons, puis nous rejoindrons David Philippot, notre correspondant à Berlin. Pas de lien pour cette fusillade en Allemagne avec l'État islamique. Mais Daesh a frappé Kaboul ce matin. 64 morts, 265 blessés, attentat perpétré par 3 kamikazes alors que se tenait une manifestation pacifique. Les détails de Mélanie Kominek sont à suivre. Enfin en France, dernier séminaire ce matin pour le gouvernement à l'Élysée avant une pause estivale. Des jalons ont été posés pour la rentrée avec un tour de France des réussites des ministres. Décryptage de Julie-Marie Lecomte en fin de journal. L'Allemagne toujours sous le choc après la fusillade de la nuit dernière dans un centre commercial à Munich. Fusillade qui a fait 10 morts et 27 blessés. Parmi les victimes, de nombreux adolescents. L'attaque a commencé dans un fast-food avant de se poursuivre à l'extérieur du centre commercial. Quant au tueur, un jeune homme de 18 ans, il s'est suicidé après son acte qui n'a aucun lien avec le terrorisme de l'État islamique, a affirmé ce midi la police allemande. Nous allons revenir sur ce point dans un instant. Mais d'abord, écoutons la chancelière Angela Merkel à la sortie du Conseil fédéral de sécurité organisé ce midi à Berlin.
In München liegen ein Abend und eine Nacht des Schreckens.
Munich a une nuit d'horreur derrière elle. Nous sommes encore sous le choc des images et des récits des témoins.
Die am Freitagabend noch Einkäufe erledigen oder rasch etwas essen wollten, sind
des gens qui hier soir voulaient faire leurs achats ou simplement manger quelque chose rapidement sont morts. D'après les dernières informations, sous les balles d'un seul tueur. Nous tous, et je le dis au nom de l'ensemble du gouvernement, pleurons avec le cœur lourd ceux qui plus jamais ne rentreront dans leurs familles. Ces familles, les parents et les enfants, tous ceux pour qui la vie apparaît vide et privée de sens, je leur dis de la part de beaucoup, beaucoup de gens en Allemagne, nous partageons votre douleur, nous pensons à vous.
Wir denken an sie.
Nous souffrons
Wir leiden mit ihnen.
La chancelière Angela Merkel. Bonjour David Philippot.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Culture à Berlin, la police a donc tenu une conférence de presse ce midi, c'est maintenant confirmé. L'auteur de la fusillade, un germano-iranien de 18 ans, n'avait aucun rapport avec l'État islamique. Les autorités voient en revanche un lien évident, je cite, avec le tueur d'Utøya en Norvège qui avait tué 77 personnes il y a 5 ans, presque jour pour jour.
Oui, Anders Breivik, le néo-nazi norvégien pour lequel il éprouvait une forte admiration à tel point que sur les réseaux sociaux, Breivik était sa photo de profil de cet adolescent qui se faisait également appeler Psycho sur les sites de jeux en ligne et qui avait écrit il y a quelque temps « Venez au McDo, je vais tous vous buter ». Particulièrement perfide, il avait sous un faux profil invité les internautes du quartier à manger hier après-midi au McDo. Il voulait ainsi attirer le plus de gens possible pour faire le maximum de victimes de Breivik. Il partageait également les idées racistes. La raison pour laquelle, sans doute hier, 3 victimes sont d'origine turque, 3 kosovars et un grec sont également tombés sous ces balles. 7 victimes sur 9 ont donc des origines étrangères, ce qui confirmerait le témoignage d'un client du McDonald's qui dit avoir entendu des insultes racistes dans sa bouche. Cet adolescent, prénommé David, éprouvait une sorte de fascination pour Breivik. Dans sa chambre, les enquêteurs ont retrouvé de la documentation et un livre qui lui sont consacrés. Autre facteur, c'est un garçon, la police l'a confirmé, qui souffrait d'une forme de dépression et qui prenait des médicaments.
Merci David Philippot, correspondant de France Culture en direct de Berlin. En Afghanistan, c'est l'un des attentats les plus meurtriers qu'a connu Kaboul, la capitale. 64 personnes ont été tuées ce matin et il y a 265 blessés. Attentat qui s'est produit pendant une manifestation pacifique de la minorité chiite Hazara et qui a été revendiquée par l'État islamique. 3 assaillants ont participé à cette attaque selon les services de renseignement afghans. La correspondance à Kaboul de Mélanie Kominek.
Il est 15h lorsqu'une forte explosion retentit à Kaboul dans le quartier de Demazeng. L'attaque s'est produite alors que la minorité chiite Hazara protestait calmement contre le tracé d'une ligne à haute tension. Selon les autorités, un groupe de manifestants se dirigeait vers le palais présidentiel lorsqu'il se retrouve bloqué par un barrage de police. Des terroristes se sont alors mêlés aux manifestants et malgré l'intervention des forces de sécurité, les kamikazes se sont fait exploser. L'attaque a été particulièrement violente selon les témoins. Les talibans ont rejeté cette attaque attentat très rapidement sur les réseaux sociaux et c'est l'organisation de l'État islamique qui a peu après revendiqué cette attaque via son agence de presse Hamak. C'est d'ailleurs la première fois que Daesh revendique un attentat de cette ampleur dans la capitale. Rappelons que la minorité chiite Hazara représente 3 millions d'Afghans dans le pays. Ils sont majoritairement représentés dans la région de Bamiyan, région que le gouvernement a donc décidé d'évincer dans le tracé d'une ligne à haute tension. Les Hazara avaient déjà défilé au mois de mai pour protester contre cette décision jugée discriminatoire. Aucun incident n'avait alors été déploré.
En Turquie, une semaine après la tentative de coup d'État, le neveu de Fethullah Gulen a été placé en garde à vue. Son oncle, prédicateur exilé aux États-Unis, est accusé par Ankara d'être à l'initiative du putsch manqué qui a fait 270 morts selon un dernier bilan. Par ailleurs, un décret publié ce matin au journal officiel prolonge jusqu'à 30 jours la durée de la garde à vue dans le cadre de l'état d'urgence. État d'urgence décrété mardi soir. 11 000 personnes sont actuellement concernées, interpellées suite aux purges menées par le président Erdogan. Le séminaire gouvernemental qui a réuni ce matin tous les ministres autour du président de la République François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls a évidemment été marqué par l'attentat de Nice du 14 juillet. Il a été convenu qu'une réunion hebdomadaire sur la sécurité se tienne pendant tout l'été à l'Élysée avec les ministres les plus impliqués. Le reste du débat a porté sur la préparation de la rentrée et l'affirmation de ce qui est présenté comme la doctrine du gouvernement, protéger, s'adapter et persévérer, Julie-Marie Lecomte.
Ne pas savoir indiquer le cap, cela a souvent été reproché à l'exécutif au cours du quinquennat. C'est donc en martelant une manière de slogan que Stéphane Le Foll rend compte de ce séminaire de plus de 3 heures. Protéger, persévérer et s'adapter dans tous les domaines, la sécurité, la politique européenne après le Brexit et l'économie. Persévérer car le gouvernement en est convaincu, il n'est pas dans l'erreur. Les lois engagées, que ce soit la loi travail ou les lois antiterroristes, vont porter leurs fruits. Le porte-parole du gouvernement n'hésite pas à parler de solidité économique. Elle se confirme, dit-il, au niveau de la consommation et de l'investissement. Et il déclare que la poursuite des politiques engagées est absolument nécessaire. À la rentrée, les ministres, chacun dans leur domaine, participeront d'ailleurs un tour de France des réussites. L'exécutif reste donc dans le ton adopté dès le printemps dans la perspective d'une candidature à la réélection de François Hollande. À l'époque, les éléments de langage, c'était « soyons fiers de notre action et relevons la tête ». En croire un récent sondage de l'IFOP, les 3/4 des Français estiment pourtant que persévérer n'est pas une bonne idée.
Le ministère de la Culture fait appel afin de maintenir l'interdiction au moins de 18 ans du film salafiste. Documentaire de François Margolin et du journaliste mauritanien Lemine Ould Salem. Sorti en janvier dernier, ce film est entrecoupé d'images de propagande et de vidéos djihadistes sans voix off ni commentaire. Il y a 10 jours néanmoins, le tribunal administratif de Paris a décidé de lever l'interdiction, estimant que le travail global des réalisateurs permet au public, je cite, de réfléchir et de prendre le recul nécessaire face à la violence des images ou des propos présentés. Le ministère de la Culture n'est pas d'accord et fait donc appel, ce qui révolte Patrick Klugman, l'avocat de François Margolin.
C'est une faute grave, déjà à l'époque, après les attentats du 13 novembre, mais c'est une faute impardonnable après Nice, que d'annoncer bruyamment qu'on va faire appel contre cette décision, d'empêcher que ce film soit montré, parce qu'à un moment donné, on doit considérer que si on veut dénoncer le djihadisme, il faut d'abord le montrer tel qu'il est. Et il est, à part ça, un peu stupide de dire on va protéger le jeune public quand on sait par ailleurs que c'est le public vulnérable de la radicalisation, et quand on sait par ailleurs la violence des images qu'ils reçoivent déjà via Internet ou via des programmes télévisés qui ne sont pas sujets à la censure du ministère de la Culture. Donc là, il s'agissait de proposer une œuvre qui est radicale, mais qui a une visée informative et pédagogique qui est absolument incontestable et qui a d'ailleurs été reconnue tant par les festivals, les professionnels, que par la juridiction administrative. Et je pense que dans cette matière-là, point de vue du ministère de la Culture, la politique de l'autruche, de mettre la tête sous la terre n'est pas une manière d'affronter ce fléau. On n'a pas le droit de protéger le public d'un film qui a une visée informative, dont les buts sont clairs, dont les auteurs sont évidemment bien connus et totalement reconnus. Et ce n'est pas ça une politique d'une grande démocratie face au terrorisme.
Patrick Klugman, l'avocat du documentariste François Margolin avec Hélène Masquelier. 3 départements sont toujours en alerte orange pour des orages. Il s'agit des Alpes de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Var. Vigilance prévue jusqu'à 20h. Le temps de votre dimanche sera calme et ensoleillé sur une grande moitié ouest, mais instable, voire orageux à l'est. Et les températures demain matin, 18 à Cherbourg, 22 à Paris, 26 à Nice. La maximale pour Perpignan avec 27 degrés. Journal préparé avec Brice Garcia, à la technique Pierre Faucillon, 18h10 sur France Culture. Tout de suite, Passeur de Science avec Mathilde Wagmann.